Bonjour à tous et merci pour votre présence, nombreuse d'ailleurs. Voilà, on est ensemble pour une heure pour parler du développement des individus, Montessori, agilité. On va voir que en fait, il y a peut-être des choses qui se recoupent. Voilà. On remercie les sponsors qui font que chaque année cet événement a lieu dans les conditions que l'on a. Donc on a la chance, le fait que ce soit ouvert à tout le monde, gratuit et avec tout ce qui va bien. Donc merci beaucoup à eux. Merci d'avance à Mathias, notre portier préféré, qui, vous le voyez pas forcément, mais fait de la muscu pendant toute la conf. Il ventile avec la porte pour faire en sorte de descendre un petit peu la température. Voilà. Donc, on peut baisser un tout petit peu. Oui, ça doit être possible de baisser un tout petit peu. Où on va demander un... Déjà, quand Hélène va parler, je pense
que
ça va être moins fort.
Vous allez voir, déjà, avec moi, ça va être vachement mieux. Du coup, on va commencer déjà par faire connaissance. Je vais vous demander un petit exercice de lever, assis. Dans la salle, déjà, je vais demander à tous ceux qui sont agilistes de se lever. Il n'y a pas fou, là. Assis, quand même, un petit peu. Vous allez pouvoir vous rasseoir. Donc Samuel est debout, en ce qui concerne l'agilité aussi. Pour tous ceux qui sont déjà dans l'éducation. Ou qui travaillent dans l'éducation. Professionnels, déjà. Tous ceux qui sont parents. Ah, là, il y a du monde.
Voilà, là, il y a du monde.
Donc, ça tombe bien, ça va aussi s'adresser à vous en tant que parents. Vous allez voir cette conférence. Et puis, on est un peu chauvin aussi, mais qui est-ce qui vient de Bretagne ? Ah, quand même. Ah. Et qui est-ce qui vient de Normandie ? On s'incline.
On a perdu. Et qui vient d'ailleurs que Normandie, peut-être ? Qui vient d'ailleurs ? Ah, ah, de même. Où, comme ça, histoire de savoir ? Le Nord. Le Nord. Et Nord aussi ?
Marseille.
Ah oui, bravo.
Quand même.
Excellent, merci.
Merci. Donc, bienvenue déjà à vous. On va continuer de se présenter nous-mêmes. Donc, je suis Hélène, éducatrice de jeunes enfants de formation. Je suis diplômée depuis 2001 et j'ai eu pas mal d'expériences dans le parental. Et je suis actuellement directrice de Bébé Braille Montessori, qui est une micro-crèche rennaise. Voilà. Et en parallèle de mon activité de directrice de crèche, je suis aussi coach en développement personnel, spécialisée en coaching parental. Voilà pour ma part.
Merci. Et moi, rien à voir. Donc, je travaille chez Orange Business Service. Est-ce que c'est mieux pour le son ? J'en profite pour faire un... C'est bien ? Bon. Merci. Donc voilà, je travaille chez Orange Business Service, informaticien à la base, et puis ayant migré vers l'agilité et le coaching agile.
Voilà. Et on est les heureux parents, l'un et l'autre, de quatre enfants, tout simplement. Donc Selma, Chloé, Timéo et Erin. D'où notre question sur les parents dans la salle, parce que vous allez voir que voilà. Vous allez pouvoir faire plein de liens avec vos vies de famille.
Alors, quelle est notre intention, finalement, avec cette conférence ? Eh bien, vous imaginez, Hélène, plutôt éducatrice de jeunes enfants, etc., moi, informaticien, donc a priori, pas vraiment des sujets très communs. Et puis, chacun évolue, Hélène va plutôt vers le Montessori, en l'occurrence. Moi, je vais vers l'agilité, le coaching agile, etc. Et puis, au travers de ces fameux quatre schtroumpfs là, que l'on doit éduquer tous les jours, enfin, dont on doit s'occuper tous les jours, on se rend compte que sur nos pratiques, on se rejoint de plus en plus, y compris dans des pratiques un peu innovantes. On évolue dans notre façon de faire et en plus, on se retrouve. Et donc, c'est ça, finalement, qu'on a voulu tout simplement partager avec vous. C'est de se dire... Ces deux méthodes, entre guillemets, qui sont clairement très pragmatiques, très empiriques, hein, qui viennent de l'observation du terrain, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et point final, après, on en parlera un tout petit peu, ça, depuis, ça a été prouvé ou expliqué par les neurosciences notamment, mais voilà. Et donc on s'est dit que si, par les petits ou par les grands, et par le terrain, il y avait des choses qui semblaient marcher, fonctionner, eh ben, tout simplement, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous les partager. Donc, permettre à chacun, finalement, de réfléchir sur ses pratiques avec les enfants, avec les collègues, etc. Encore une fois, on est comme tout le monde et on fait du mieux qu'on peut au moment où on le fait avec ce qu'on est à ce moment-là. Il n'y a pas de débat avec ça. Et quand même, on a essayé de le rendre suffisamment concret pour que chacun puisse repartir avec une, deux, plusieurs petites pratiques ou évolutions de pratiques qui pourraient peut-être être des pistes. Voilà.
Voilà, donc toute cette liste-là qu'on vous a prévue, évidemment, ce n'est pas exhaustif, on est limité par le temps, donc mea culpa aux puristes, on n'aura pas de lien permanent, on ne va pas vous dire tout de Montessori, tout de l'agilité, c'est vraiment des petits repères qu'on a fait au fur et à mesure de nos expériences.
Alors pour démarrer, on va faire un petit jeu et j'ai besoin de deux volontaires au départ qui viennent ici. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de... Donc voilà. Il faudrait deux personnes qui viennent ici, ouais, et puis une deuxième. Bravo.
Bonjour.
Bonjour. Et une deuxième qui veut bien venir. Viens. Ah, bah attends, on va donner honneur aux dames. Viens, viens, viens. D'accord, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer. Merci d'abord de jouer le jeu. Je vous explique ce qui va se passer, puis après, vous allez tous le refaire. Donc, profitez-en pour observer. Donc, le principe, c'est que toi, tu vas tendre le bras comme ça, d'accord ? Et donc, je t'explique, puis après, on le fera. Mais tu vas tendre le bras comme ça, et puis, d'abord, je vais te demander de crier fort pour que, même dans le fond, ils entendent « oui, oui, oui ». Et pendant ce temps-là, la personne d'à côté...
sans arrière-pensée.
La personne d'à côté, donc comment tu t'appelles ? Caroline, alors vas-y, tends le bras pour montrer, voilà. Et Caroline, tu vas te mettre ici et tu vas essayer de baisser le bras, d'accord ? Ce sera tout à l'heure. D'abord, on va faire ça. Donc tu vas tendre le bras. Oui, oui, oui. Et tu tends le bras. Et toi, voilà, c'est ça. Et toi, ton objectif, c'est de l'empêcher de résister et de l'empêcher donc de l'empêcher de descendre ton bras. Ok ? Pendant que, juste après que tu aies crié, elle va appuyer. Ok ? On y va ? Allez, go !
Oui, oui, oui.
Vas-y. Ok. Maintenant, on va refaire le même exercice, mais là, tu vas crier non, 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 et si possible, encore plus fort. Ok ? Ouais. Et toi, pareil, de toutes tes forces.
Non, non, non.
Voilà. Donc on a commencé. Donc vous allez vous mettre par deux. Vous refaites l'exercice. Quand vous appuyez, appuyez vraiment.
Merci.
Bravo et merci à vous. Voilà. Donc les oui, 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 il faut que ce soit des vrais oui, oui, oui. Et les non, 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 ça doit être des vrais non, non, non. Je veux entendre.
Nous on écoute. Donc tu signales que t'appuies fort. Samuel, signale qu'on appuie fort.
Faut dire non fort et oui. Alors, quand c'est bon, vous rasseyez. Alors, est-ce que certains ont pu observer des choses ? La contradiction, quelle contradiction ? Le non, non, non baisse plus facilement que le oui, oui, oui.
Ah non, 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 non.
Alors, donc, oui, oui, c'est ton ressenti et c'est effectivement celui-là. Mais à la limite, s'il y a une inverse, c'est bien ça le sujet. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est sur le non, 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 on utilise une partie du cerveau qui est le cerveau reptilien. On est sur du stress finalement. Donc c'est la partie reptilienne. On a trois grands types de cerveaux. Pareil, on va faire simple, mais trois types de cerveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Le cerveau reptilien, c'est simple, c'est la survie. Donc ses capacités, elles sont hyper primaires. C'est les trois F, voire les quatre en anglais. Donc le fight, donc j'ai peur, je suis en stress, je suis prêt à me battre. Le fly, je suis prêt à me barrer. Le freeze, je me bloque en espérant que personne ne me voit. Et le 4, c'est fornicate. Donc, c'est la reproduction. Voilà. Donc là, c'est le cerveau reptilien. Quand on est en stress, c'est lui qui prend la main. Après, il y a le cerveau limbique, c'est toute la gestion des émotions. Donc, tout ce qui fait le lien avec toutes les émotions, l'accueil des émotions, l'empathie, etc. C'est ça. Et puis, il y a le troisième grand type de cerveau qu'on appelle le néocortex. Alors, néo, parce que justement, c'est la partie qui se développe depuis, pas il y a l'année dernière, hein, mais depuis un certain temps maintenant, et qui est la partie qui permet toutes les fonctions avancées. Donc, tout ce qui est capacité d'abstraction, de raisonnement, la créativité, tout ce qui est lié au développement, à l'évolution, c'est cette partie-là. Et donc, tout ça pour vous montrer quoi, le petit jeu qu'on a fait juste avant, c'est que quand on est en stress, et c'est ce qui fait notre survie, hein, donc on est câblé comme ça depuis des années, c'est lui qui prend la main. Donc on est dans un certain registre du cerveau. Or, pour le développement, on va avoir besoin d'être évidemment plutôt là. Là et éventuellement là, mais au moins là. Et en fait, là, vous le voyez, hein, le schéma n'est pas le hasard. C'est-à-dire que par rapport au reste du corps, c'est lui qui est en premier, puis lui, puis lui. Et c'est comme ça, hein, par exemple, que parfois on dit « Ouais, je sais bien, intellectuellement, je sais bien qu'il faudrait que je fasse ça, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi, je n'y arrive pas, je suis stressé. Je sais qu'il n'y a pas de raison de stresser, mais je suis stressé. » Et bien, voilà, parce que effectivement, ça doit descendre par tout ça et qu'ils prennent. Et pour information, ce n'est pas du tout le même niveau, le même temps de réponse. Là, c'est quasiment du immédiat. Quoi. C'est de l'ordre de moins d'une seconde. Ici, on est plutôt de l'ordre de 3-4 secondes, voire plus, dans la capacité de... Voilà. Donc, du coup, pour le développement des individus, la première chose et la chose la plus importante, c'est la sécurité affective ou la sécurité psychologique. Sans ça, c'est même pas la peine d'aller chercher autre chose. Donc, on va commencer par passer un petit peu de temps pour vous en parler.
Du coup, la sécurité affective, nous, au niveau de la structure, chez les plus petits, alors là, on a pris... Trois thèmes qui nous semblaient le plus importants. Donc, je vais vous parler de l'adaptation qu'on peut faire en structure petite enfance, de l'accueil de l'émotion de l'enfant et du fait de ne jamais, ou en tout cas d'essayer de ne jamais pointer l'erreur, ou en tout cas ce que nous, en tant qu'adultes, on estime erreur. Au niveau de l'adaptation du jeune enfant, comment dans la structure, on a travaillé l'adaptation de telle façon à vraiment créer du lien avec la famille. Notre but, c'est pas du tout de le séparer le plus vite possible. C'est de prendre le temps de connaître les habitudes de l'enfant, de mettre la famille en confiance, que ce petit être qui arrive là, qui nous est confié, nous connaisse suffisamment pour ensuite, dans un deuxième temps, se séparer plutôt sereinement de sa famille. On sait bien qu'une adaptation réussie, après, on peut, entre guillemets, tout faire avec cet enfant-là. En tout cas, on peut tout lui proposer. Il va être ouvert à tout. Si on va trop vite, si on ne laisse pas le temps à l'enfant, ce sera la galère pendant des semaines, des mois, etc., le temps qu'il se détende et puis qu'on puisse faire quelque chose. Je vais vous prendre un petit exemple tout bête. On a adapté il n'y a pas si longtemps que ça une petite puce qui s'appelle Valentine et qui, dans les habitudes de sa famille, en fait, elle dormait toujours au milieu du séjour avec l'animation de ses frères et sœurs, etc. Ce n'était pas un problème dans la famille. Donc voilà, cette petite puce-là, on a mis, à peu près 6 semaines à pour la première fois lui proposer un lit à la crèche, parce que c'était hors de question directement de lui dire « Mais si, tu vas voir, ça va bien se passer, on va dormir ici, nous, c'est un lieu qu'elle connaît pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui tourne autour, c'est dans le noir, etc. » Donc c'est vraiment laisser le temps à l'enfant de s'habituer à nous, de créer cette notion de lien de confiance et vraiment de le sécuriser. Et sans ça, ça sert à rien d'aller lui proposer des activités, etc. Il n'est pas prêt. C'est très, très important.
Alors, chez nous, les grands, et ce sera vraiment les passerelles que l'on va essayer de faire en permanence, en agilité, par exemple, ça veut dire quoi ? C'est toute la partie, typiquement, en général, les réunions agiles, elles démarrent par un icebreaker. Et c'est ça, c'est prendre 5 minutes juste pour faire connaissance, se parler, se mettre dans des conditions un peu sympas, pour quitter éventuellement un certain registre et passer dans le registre, ok, on est bien, on a coupé le stress. C'est le rôle, par exemple... pour ceux qui connaissent un petit peu l'agilité, il y a un rôle qui est clé qui s'appelle le Scrum Master, qui est une personne dont la raison d'être, c'est de faire en sorte que tout le monde soit dans les meilleures conditions, que chaque individu soit dans les meilleures conditions au sein de l'équipe, justement pour être sûr qu'on est bien dans le bon registre du cerveau pour qu'ils puissent avancer. Et alors, sans s'être concerté, mais si certains étaient dans la conférence de Manuela ce matin sur l'enseignement et l'éducation, elle donnait l'exemple. Elle disait, par exemple, le jour de la rentrée, on rentre, tout le monde s'assoit, et il y a le premier élève qui commence par un A, alors c'est quoi ton nom, ton prénom, ton adresse, machin. Ça peut être un peu raide, quoi. Et donc, elle disait, commencer par s'amuser un peu, laisser les enfants interagir tranquillement, prendre leur repère, etc. Voilà, donc cette partie, c'est quelle. Et quand on est, quand on accueille quelqu'un dans une équipe, qu'elle soit managériale, projet ou autre, quel temps on prend pour lui laisser le temps de faire connaissance, de se sentir à l'aise, confortable avec chacun, avec le sujet et en sécurité.
Donc ensuite, on a développé un deuxième item qui s'appelle l'accueil de l'émotion. Alors l'accueil de l'émotion, on a tous vécu ça, que ce soit dans nos familles, etc., où vous avez un enfant qui arrive vers vous, qui s'est cassé la figure, et puis qui arrive vers vous, qui vous montre l'ampleur des dégâts, et vous avez à peine, vous avez beau regarder de près, vous voyez franchement pas grand-chose. Voilà, on a tous fait la version classique, non mais c'est pas grave, relève-toi, on frotte un peu, ça va passer, tac, tac, tac. Et puis, cette notion dans la structure qu'on aime bien développer, c'est voilà, quelle que soit la micro-coupure que vous voyez pas, ah ben ça n'empêche que cette micro-coupure-là, elle est hyper importante pour cet enfant-là. Du coup, c'est vraiment voilà, accueillir cette émotion-là en disant « Ah ben oui, dis donc, je vois que tu t'es fait mal, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as besoin qu'on passe de l'eau ?» etc. etc. Au départ, ça paraît peut-être, en tout cas, un peu... pas infantilisant, mais en tout cas, on a l'impression d'être un peu gnangnan quand on fait ce truc-là. Mais malgré tout, on se rend compte que ça sécurise beaucoup l'enfant, parce que ce qu'il a besoin, c'est juste qu'on prenne en compte son émotion, peu importe ce qui se passe derrière. Et le fait de prendre en compte cette émotion le sécurise énormément et ça l'apaise beaucoup plus longtemps que si on le minimise et voilà, la colère ou la tristesse liée à une émotion va passer beaucoup plus rapidement si on est dans l'écoute que si on minimise le truc en disant c'est pas grave, on en a vu d'autres, t'es quand même pas, y a pas mort d'homme, quoi.
Et chez les plus grands, hein, c'est comment on accueille quelqu'un qui arrive énervé, nous voit en disant ouais, j'ai encore Jean-René, ça fait le soir de réunion, je lui ai expliqué pendant un quart d'heure que c'était pas possible ce qu'il me demandait, et en même temps il en a pas tenu compte, et c'est encore moi qui vais me retrouver à devoir faire à la fin sous pression. Et là, y a plusieurs cas, mais le classique qu'on peut tous faire et qu'on fait tous, c'est tu le connais, il est comme ça. Puis, de toute façon, la dernière fois, tu as réussi, donc ça va aller. Et voilà. Et sauf que la personne, quand on lui a dit ça, elle continue à être un peu. Ça va être dur de collaborer. Ou alors, c'est la formule plutôt reformulation. Ok, je comprends, effectivement. Je peux imaginer que quand tu donnes tous les éléments, que c'est toi qui sais le vrai délai. Et qu'en plus, tu vas devoir subir les conséquences de ça, toi-même, tu puisses être énervé. Voilà. Et du coup, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour que ce soit pris en compte? Et là, déjà, la personne, elle est dans un état psychologique qui est différent, parce qu'on a reformulé, donc on a remis des mots sur ce qu'il ressentait sur la base des faits, plutôt reprendre ses propres mots, essayer de nommer l'émotion qu'il ressent, si possible. Et là, il y a un apaisement qui fait, et paf, on peut basculer dans un autre registre du cerveau.
Alors, qui participe aussi à la sécurité affective, c'est tout ce qui fait le fait de ne pas pointer l'erreur de l'enfant. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire en tant qu'adulte, hein, parce que franchement, c'est un vrai travail sur soi. Mais en tout cas, on est très vigilant dans la structure, là où je travaille, à faire en sorte que si tant est qu'il y ait erreur qui est nécessaire de corriger entre guillemets pour le bien-être du groupe, je vais vous donner un petit exemple, on ne va jamais le faire devant l'enfant. On a par exemple tous les matins un enfant qui prépare des petites lingettes humides pour l'ensemble du groupe qui se servent à se débarbouiller après le repas. Ces lingettes-là doivent être facilement prenables après par ceux qui en ont besoin après le repas. Sauf que je vous cache pas qu'au départ, quand il commence à mouiller les lingettes et puis à les mettre sur le truc, ça fait un tas de lingettes humides. Pas du tout facile à prendre. Donc du coup, peu importe, l'enfant, il en est là pour le moment. Donc lui, déjà, il a mouillé les lingettes, il les a à peu près essorées, et puis elles sont en tas. On prend ce tas-là, et puis nous, on va aller ailleurs pour rerouler les serviettes pour que, dans tous les cas, elles servent pour l'utilisation commune. Mais on ne matérialisera jamais à l'enfant, ou on ne reroulera jamais à l'enfant, devant l'enfant, la serviette comme elle doit être. Et c'est à force de répétition. Et justement, le fait de ne pas pointer l'erreur va permettre la répétition. De toute façon, il ne va pas se faire rouspéter, c'est plutôt plaisant. Et puis à chaque fois, il va progresser, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, miracle, il arrive à, en plus de mouiller et d'essorer, de mettre ses petites serviettes de façon satisfaisante pour que ce soit pris par les copains.
Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez les grands, chez les adultes, on va à la chasse, à la recherche de coupables. Hein. Pourquoi qui a fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Donc là, on va commencer à chercher des personnes, des coupables, entre guillemets, et donc ça va poser un certain nombre de problèmes qu'on va voir après. Plutôt que rechercher qui a fait, bon, déjà, au contraire, les noms, c'est pas le sujet. Plutôt que le pourquoi, c'est qu'est-ce qui... Parce que le pourquoi entraîne une justification. La personne, pourquoi tu as fait ça ou pourquoi ça s'est passé? Là, on commence à se justifier. Justifier, ça veut dire registre du stress dont on a parlé tout à l'heure. Alors que si on dit qu'est-ce qui a fait que, là, on s'adresse au néocortex. Raisonnement, ok, qu'est-ce qui a fait que? Effectivement, c'est une bonne question. Et là, on arrive à l'analyse. Donc déjà, changer ces petites choses-là. Et puis surtout, les tourner. Une autre clé, c'est les tourner vers le futur. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ah, voilà, déjà, hop, on se tourne plutôt vers la suite, vers le futur. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Quelles solutions tu proposes? Qu'est-ce qu'on fera différemment la prochaine fois? Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. D'après vous, donc je vais vous présenter une étude Google, peut-être certains d'entre vous la connaissent, mais quel est le facteur numéro un? Ils ont essayé de chercher, pendant un certain temps, finalement, plus longtemps qu'ils ne pensaient, quels étaient les facteurs de performance des équipes chez Google. Chez Google, globalement, les équipes sont quand même en moyenne plutôt performantes, mais ils voyaient que certaines équipes étaient plus performantes que d'autres, et donc ils se sont dit, avec notre super moteur de recherche, de corrélation, etc., on va essayer d'interviewer, là, et puis de trouver ce qui fait qu'une équipe est performante. Est-ce que certains ont une idée du premier facteur de performance d'une équipe? Confiance. Bienveillance. Respect. Liberté, entraide, dollar, ouais, ça pourrait, l'écoute, coopération. Alors, en fait, tout ça, c'est plutôt des effets, mais le plus proche, ce serait probablement la bienveillance. En fait, c'est la sécurité psychologique qui règne au sein de l'équipe. Donc, c'est dans quelle mesure je suis complètement à l'aise avec le fait de dire ce qui me vient en tête. Si je me suis planté, je dis que je suis planté. Si je suis en retard, je n'ai pas de problème à dire que je suis en retard. Si j'ai une idée, même saugrenue, eh ben je vais pouvoir la mettre sur la table parce que ça va rebondir et qu'une idée va en amener une autre qui va en amener une autre qui va en amener une autre. Donc en fait, ils expliquent bien, on a mis la référence, vous pourrez aller voir si vous voulez, mais ils ont mis plus de temps qu'ils ne pensaient et finalement, ce n'est pas le fait d'être la confiance ou la collaboration ou voilà, c'est la cause racine, la source racine, le premier facteur, c'est ça. Et la raison, elle est indiquée ici, hein, c'est que si on est dans une situation où plutôt on est en ce qu'on appelle en danger psychologique, on ne va pas vouloir reconnaître ses erreurs, évidemment, parce qu'on est en stress, on connaît les conséquences, etc. On va plutôt, du coup, essayer de pousser les erreurs chez les autres, tant qu'à faire, hein, c'est logique. Donc on va être dans la chasse aux sorcières, la recherche de coupables, etc. Ah, t'as perdu un micro. Ensuite, du coup... Il y aura moins d'échanges puisqu'on ne va pas oser trop dire ce qu'on pense vraiment. Quand on est en retard, on ne va pas vouloir le dire. Quand on pense que ça ne marche pas, on ne va pas trop non plus le dire parce que sinon, c'est celui qui dit qu'il ne va pas savoir faire qu'on va commencer à pointer. Et puis, bah, du coup, les décisions elles sont prises sur des mauvaises informations, informations partielles, etc. Donc, on prend des mauvaises décisions et on boucle. Et du coup, comme on prend une mauvaise décision, et bah, on se plante, etc. Si on est en sécurité psychologique, donc si cette à gauche, hein, sécurité psychologique, elle est là, elle règne vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de coupable, il n'y a pas tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bah d'abord, on va pouvoir dire, ouais, ok, c'est effectivement, c'est moi qui me suis planté. Voilà, et ça coupe le sujet. Une fois qu'on a dit, c'est moi qui me suis planté, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avance, plutôt que de passer du temps à chercher qui... Ok, c'est moi qui me suis planté, point. Maintenant, on passe aux solutions. On va être dans une démarche de dire, ok, je me suis planté, et voilà ce qu'on a appris collectivement. Donc en plus, on apprend. Voilà ce qu'on va faire différemment. On va pouvoir partager des points de vue différents. Et on l'a vu, enfin, ceux qui ont fait des conférences dans ce monde complexe, c'est ces points de vue, c'est pas ou vert ou rouge, ou noir ou blanc, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et qu'on a besoin d'avoir les différents points de vue pour comprendre, d'un point de vue global, d'un point de vue systémique, ce qui se passe. Et enfin, on va du coup pouvoir prendre les bonnes décisions, parce qu'on aura bien fait le tour du sujet. On va pouvoir innover parce que certains vont avoir des idées un peu en rupture qui vont oser exprimer, qui, par rebond, vont amener à une idée. Voilà. Donc, c'est le facteur clé sans lequel, déjà, rien du reste, en termes de développement, ne peut arriver. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier pilier. Maintenant, la confiance en soi pour développer les individus, évidemment, c'est un pilier, un élément clé. Et du coup, je vais passer littéralement le micro à Hélène.
Alors la confiance en soi, chez les plus petits, au niveau Montessori, on fait très attention à créer un environnement qui favorise la réussite. Je vais vous prendre deux petits exemples. Chez les bébés qui ne se déplacent pas encore, qui ne sont même pas dans le ramping, on ne va pas s'amuser à leur mettre une balle qui roule, en tout cas qui roule vite. Donc on va mettre des balles plutôt lourdes, parce que déjà il a fait un effort de dingue pour arriver à toucher la balle. Donc si au moment où il la touche, ouf, la balle elle se barre à l'autre bout de la pièce, ah bah, la confiance en soi est quand même un peu attaquée. Donc on va faire très attention à ce qu'on peut leur proposer comme ça. Et puis on met aussi en avant tout ce qui est motricité libre. Donc le concept de motricité libre, en deux mots, c'est tout simplement le fait de ne pas mettre un enfant dans une position qu'il n'est pas capable d'acquérir par lui-même. Donc on ne va pas asseoir un enfant qui n'est pas capable de tenir assis par lui-même, enfin, en tout cas de se mettre en position assise par lui-même, etc. On a toujours, par exemple, cette image-là où on se dit « Oh, chouette, un toboggan Oh, mon enfant il est petit, mais ça va être quand même sympa la glissade. » Donc hop, je prends l'enfant, je le mets en haut du toboggan. Et puis, y a souvent deux cas de figure. Soit finalement, une fois rendu là-haut, ça a l'air super haut quand même. Stress total, du coup on le redescend, c'est pas grave, tant pis. Hein. Mais bon, quand même, tant pis, la confiance en soi, c'est quand même pas terrible. Et soit on se dit, on met quand même cet enfant-là donc en haut du toboggan. Et puis super, l'enfant il glisse, c'est le roi du monde. Il est super content d'avoir ces sensations de plaisir. Et malgré tout, flûte, quoi, il veut recommencer, mais là, vous n'êtes pas dispo pour le remettre là-haut. Quoi. Donc, voilà, c'est vraiment tout ça, et ça évite la mise en échec et du coup l'attaque de la confiance en soi de l'enfant.
Et donc, chez les plus grands, c'est comment, quand je délègue ou confie une tâche à quelqu'un, je m'assure qu'il a tous les éléments, un maximum de chances de réussir. Donc, ça va être Ça va être donc comment est-ce que je sais bien déléguer ? D'abord, donner bien la vision et l'intention, c'est-à-dire pourquoi on veut faire ça et l'intention qu'on a derrière, pour être sûr que la personne elle ait tous les éléments pour arriver là où on voudrait qu'elle aille. La deuxième élément important, évidemment, c'est de s'assurer qu'elle en a les compétences, les outils, les moyens, parce que confier quelqu'un en disant mais j'en suis sûr, tu en es capable, et qu'en fait c'est pas le cas, en tout cas, c'est pas une question de capacité, c'est une question de moyens. On met la personne dans une situation, on commence à mettre la personne dans une situation difficile, d'échec, de doute, etc. Et dernier point, c'est bien expliciter le cadre. Ça, c'est souvent difficile, mais je confie la tâche, je te fais entièrement confiance. Ok, mais ça veut dire quoi, entièrement confiance ? Jusqu'où ? Il y a toujours une limite. Je peux dépenser 500 euros, ou je peux dépenser 5000, ou je peux dépenser 5 millions pour arriver à ça. Donc, bien expliciter le cadre. Donc, dans quel cadre tu peux complètement évoluer, et puis à partir d'où il faut qu'on en discute. Et puis, ce qu'on appelle en agilité la definition of done, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait que, effectivement, cette tâche-là, elle serait réalisée et bien réalisée. Parce que la personne, sinon, elle va le faire tel qu'elle, elle l'imagine. Mais au final, c'était peut-être pas ça que vous aviez en tête. Et donc, à la fin, on va pointer ouais, mais regarde ça, ça fait pas ça, ça fait pas ça. Mais tu me l'avais pas dit. Effectivement, et là, clac. Okay. Donc, c'est comment on travaille la délégation avec la vision, donc le sens, les compétences et le cadre.
J'ai récupéré. Du coup, je vais décrire sans féliciter. Donc là, vous allez voir tous mes talents de dessinatrice haut de gamme. Donc, vous imaginez, j'ai quand même passé vachement de temps à faire ça, ce qui est vrai. Donc, on a un enfant qui passe un temps fou à vous faire un super dessin. Et puis, hop, voilà, je complète. Hop, voilà. Et puis, votre enfant, merci quand même. Ça fait plaisir, c'est la première fois que je suis applaudie pour une œuvre. du coup, votre enfant, voilà, il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour vous faire ça. Et puis, il se ramène vers vous. Et puis, Puis là, vous faites, oh, mais c'est magnifique, oh là là, c'est vraiment génial, ta baleine, elle est magnifique, quoi. Puis là, il y a votre enfant qui vous dit, ma baleine, bah non, j'ai dessiné papa, quoi. Tu vois bien, là. Donc voilà, pouf, terminé, quoi. Donc, juste comment. Ce qu'on essaye d'être vigilant, justement, pour ne pas attaquer la confiance en soi de la femme, ni celle de papa, d'ailleurs, parce que je suis désolée. C'est vraiment de décrire, rester factuel. Donc, ça va être oh, bah, je vois que tu as utilisé du bleu et du rouge, que, on va dire, la majorité de la page est remplie, etc. etc. On reste factuel, et puis comme ça, l'enfant, il en fait ce qu'il veut, parce que si ça se trouve, en plus, il vous a apporté ce dessin-là, qui est très, très moche pour lui, et vous, à chaque fois, vous n'allez jamais. J'ai rarement vu les parents dire, en tout cas, oh là là, qu'est-ce qu'il est moche son dessin, quoi. Donc, et bien, peut-être que lui, il pense qu'il est moche, donc on n'en sait rien. Donc, pour être au même niveau, au moins si on décrit la confiance en soi de l'enfant, de toute façon, voilà, on reste factuel.
Et donc, le challenge que ça pose pour nous, plus grands, c'est savoir faire du feedback. Et c'est pas facile de savoir bien faire du feedback. Le classique, c'est super boulot, super job, c'est top, franchement. Ok, mais ça, c'est pas un feedback de développement. C'est pas quelque chose qui va permettre, qui va bien permettre le développement des individus. Il y a un côté, je juge, c'est bien, c'est pas bien. Et c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça qui va permettre de développer. Donc on va plutôt dire, on va plutôt essayer de donner des faits précis. Et si on veut donner un, alors déjà première chose, c'est que si vous voulez juste dire c'est bien, point. On a trop tendance à dire merci beaucoup, c'était top. Tiens, et au fait, et là, bon, c'est cassé. Manuela, ce matin, elle disait il faut 7 points positifs pour contrebalancer un point négatif. Voilà, donc si on en donne un, super, c'est bien, et puis derrière, bing, on voit avec quoi la personne repart. Donc si vous avez envie de dire à la personne que si votre message principal, c'est c'était bien, voilà, point. Si votre intention, c'est de faire un feedback de développement, c'est-à-dire de permettre à la personne éventuellement de faire mieux la prochaine fois et de progresser. D'abord, normalement, on est censé lui demander est-ce qu'éventuellement ça t'intéresse que je te fasse un feedback, et elle acquitte. Et ensuite, on va décrire les faits, s'appuyer sur des faits et éventuellement lui suggérer une amélioration. Par exemple, écoute, merci beaucoup. Dans le dernier dossier que tu m'as donné, j'ai trouvé toutes les informations dont j'avais besoin. Les informations étaient classées par item. Moi, ça m'a parfaitement été. Éventuellement, pour une prochaine fois, si ça ne te pose pas de problème, peut-être si tu peux mettre un jeu de couleurs en plus, ce sera encore mieux. Voilà. Et là, il y a un vrai feedback de développement. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle a bien fait, ce qui va lui permettre de continuer à le faire. Et elle a une piste. Et l'idée, c'est jamais plus d'une piste d'amélioration. Parce que, ou en tout cas, elle en choisira un, mais une par une, déjà, ce sera bien. Donc voilà, savoir faire du feedback, et ce n'est pas si facile. Ça rejoint ce qu'on disait, pas de tous les c'est bien, c'est top, c'était clair. Tout ça, c'est du jugement, c'est de l'évaluation. Et ça, on ne veut pas. Donc on repart des faits, et après, on donne éventuellement une amélioration.
Donc pour continuer de développer la confiance en soi de l'enfant, on va faire en sorte de ressortir juste ce qu'il sait faire. Donc je vais vous prendre un exemple. À la crèche, quand les enfants mangent ensemble sur le groupe des grands, ben voilà, le pichet il est vide, il y a un enfant qui se propose, il va remplir le pichet, il le retransporte jusqu'à la table, et puis il verse le verre de, enfin voilà, il remplit son verre d'eau, et puis ben là, débordement. Donc, alors c'est plus facile à dire comme ça qu'à faire sur le terrain, mais en tout cas, le verre d'eau déborde, c'est pas grave. On a dit tout à l'heure qu'on pointait pas l'erreur. Donc par contre, super, cet enfant-là, il a déjà vu que le pichet était vide, il a pris spontanément le fait d'aller chercher de l'eau pour ses copains, il a déjà réussi à ramener le pichet sans en mettre à côté jusqu'à la table, il a réussi à viser dans le verre, bon, tellement bien que ça a débordé, mais en tout cas, voilà déjà tout ce qu'il sait faire. Et peu importe le résultat, on voit déjà toutes les étapes par lesquelles il est passé, et puis peut-être que la prochaine fois, eh ben, voilà, il aura appris de son erreur que si il verse trop vite ou trop d'un coup ou trop longtemps, eh ben, ça déborde. Etc, etc. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte de développer la confiance en soi de l'enfant.
Donc en agilité, par exemple, toutes les rétrospectives, on démarre par qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a bien marché ce mois-ci. Donc c'est exactement dans cet esprit-là. On commence par se dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a bien marché, etc. Dans les réunions, dans les entretiens individuels, commencer par, ok, ce semestre-là, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu as bien fait, c'était quoi où est-ce que tu t'es senti bien, etc. Et éventuellement, s'il y a un challenge en cours en disant hey, là-dessus, c'était plus galère, bah, le ramener, le reconnecter à tiens, et dans tout ce que tu as bien réussi, quelles ont été les compétences, quelles sont les aptitudes qui ont fait que tu as bien réussi, et comment tu pourrais les réutiliser pour adresser ce cas qui te pose problème. Qu'est-ce que tu as réussi finalement le mois dernier ou le semestre dernier qui pourrait être utile pour ce cas qui est plus difficile dont on a besoin de parler. Pour ceux qui connaissent ou qui ont envie d'aller chercher, c'est notamment l'idée de l'appréciative inquiry, c'est comment je parle des points forts et de ce qui a marché pour adresser les difficultés, là où d'habitude on va, bon alors, ça, ce semestre-là, c'était quand même, on n'était pas, c'était pas bon, quoi, ça ne l'a pas fait, donc comment tu vas faire pour t'améliorer, comment tu fais pour faire mieux.
On laisse aussi l'enfant libre de ses choix pour continuer de développer sa confiance en soi. Donc, vous ne verrez pas en structure Montessori non plus, à un moment donné, hop, il est l'heure, tout le monde à la peinture. Pas du tout. On est vraiment force de proposition. Et puis l'enfant, voilà, il choisit ou pas de venir à l'atelier que vous proposez, il choisit ou pas de prendre telle ou telle activité. Le fait est qu'en fait, on a confiance en lui et en ses capacités de savoir ce qui est bon pour lui. L'enfant le sait, hein, avant tout, il va rarement se mettre en danger et rarement faire un truc qui ne lui plaît pas. Donc, on est force de proposition, garant d'un cadre, mais en tout cas, c'est l'enfant qui choisit.
Et donc, en agilité, on est beaucoup dans l'auto-organisation. OK, il y a ça à faire. Qui fait quoi? Qui veut faire quoi? Mais sur la base du volontariat. Parce que la personne, si elle est volontaire, c'est que probablement elle se sent capable de le faire, que ça l'intéresse, que du coup, elle va être motivée, engagée, etc. Donc, l'auto-organisation, le fait de pouvoir choisir, entre guillemets, ce qu'on veut faire, elle va être source de développement et de confiance en soi, parce qu'on va réussir. Ouais. Donc, deuxième pilier, il y en a trois, et puis il y en a un quatrième. Deuxième pilier, encourager la troisième pilier, encourager la coopération. Non, non. Évidemment, la coopération, l'homme étant un animal social, c'est une source, cette partie collective et coopération, c'est une source très importante de développement parce que on va pouvoir s'enrichir de la diversité des autres.
Donc pour ça, il faut déjà, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, travailler dans un cadre. Donc parfois on entend Montessori, oh ben là, Montessori, on les laisse tout faire. Pas du tout, il y a un cadre bien précis. Un petit exemple qui illustre ça, ils ont accès à des tapis qui peuvent dérouler, etc. Et au moment où le tapis est déroulé, ça signale aux autres que cet espace-là devient privé et qu'il faut respecter l'espace de travail de cet enfant-là. Donc, il ne faut pas se leurrer, hein, ils ne sont pas parfaits, les petits-enfants qu'on a. Ils vont forcément passer sur le tapis du copain, etc. Mais nous, on est garant de ce cadre-là. OK, tu as mis ce tapis-là pour toi, pour ton travail, donc ça veut dire que les copains qui vont passer autour, eh ben, ils vont faire l'effort de contourner ce cadre-là. Et puis voilà, on essaye de poser un cadre bienveillant qui répond aussi aux besoins de l'enfant. On ne va pas demander à un tout petit de rester assis toute la journée, ça ne va pas le faire. En tout cas, il va tout le temps pousser le cadre. Mais voilà, un cadre juste par rapport aux personnes qu'on a en face de nous, au public qu'on a en face de nous. Et du coup, c'est vraiment ça qui va faciliter la vie collective, j'allais dire sereine, d'un groupe où globalement, en tout cas, les stagiaires qui passent chez nous, ce que nous, des fois, être complètement dedans, on ne voit plus. Mais les stagiaires qui passent chez nous nous disent toujours « Oh là là, qu'est-ce que c'est calme chez vous !» Alors, ce n'est pas parfait, hein, je vous dresse pas un tableau non plus idyllique, mais en tout cas, voilà, on a vraiment cet esprit-là et ce cadre bienveillant qu'on met en place aide à ça.
Et de la même façon, en agilité, pour ceux qui ont participé à des réunions agiles, mais globalement, dans toutes les bonnes pratiques de groupe, d'animation de groupe ou d'équipe, c'est de se donner des règles de fonctionnement. OK, on est ensemble pour une heure, pour une journée ou pour un projet de X mois. Quel est le cadre? Quelles sont les règles qu'on a envie de se donner pour que ça fonctionne bien? Voilà. Et donc, par exemple, en intelligence collective, il y a les règles, écouter avec attention, parler avec intention, être bienveillant, être présent, respecter le cadre. Etc. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on pose en début de journée en disant, ça, c'est les règles de vie. Est-ce qu'on est tous d'accord que pour que ça se passe bien, il faut que chacun respecte ça. Est-ce qu'on a envie d'en ajouter? Ouais, s'il y a un appel téléphonique, on sort. OK, très bien, on rajoute ça. Ça, c'est une règle de vie collective. De la même façon, on fait travailler beaucoup les équipes sur leurs valeurs. C'est quoi les valeurs de l'équipe qui doivent globalement dicter le comportement? Vous savez, les valeurs, quand on a nos valeurs, si j'ai une valeur engagement, par exemple, ben, je vais avoir un comportement qui fait que je vais tout faire pour réussir, enfin pour délivrer ce que j'ai dit que j'allais faire. Pour faire ce que je... De la même façon, on va faire travailler les valeurs d'équipe pour que les comportements des uns et des autres fassent que globalement ça se passe bien. Donc ce cadre, c'est de ce cadre naît à l'intérieur une liberté qui va être source de développement et de richesse.
On a aussi donc la façon de résoudre les conflits. Donc il y a des conflits, comme tout enfant, ils veulent tous à un moment donné le jeu de l'autre parce que ça a quand même a l'air super intéressant. Voilà, on va faire en sorte de prendre en compte les besoins de chacun. Si jamais il y en a deux qui arrivent, par exemple, sur le même jeu en même temps, là, je pense à une situation, il n'y a pas longtemps, on a eu une seule draisienne dans le jardin. Ils sont arrivés au même moment, il y en a un qui a pris la selle, l'autre qui a pris le guidon, et puis bah, chacun tirait de son côté, et ils nous regardaient, l'air de dire « vous nous aidez sur ce coup-là ». Voilà, on est intervenu, et puis on a déjà écarté l'objet du conflit, on l'a mis de côté pour pouvoir discuter calmement et essayer de les faire. Alors c'est un groupe d'enfants, c'était dans les plus grands, donc ils avaient déjà le langage, mais en tout cas d'essayer de trouver une solution qui convienne aux deux. Au final, ils avaient vu ça la semaine d'avant, donc il y en a un qui a proposé de, on fait un tour et tu m'attends à la gare, et puis moi j'arrive à la gare et on change de truc. Cette solution-là, après, l'adulte en question est garant de justement que le tour de rôle soit bien respecté et qu'il n'y en ait pas un qui fasse trois tours de rail et puis et qui oublie de déposer le vélo à la gare comme c'était convenu. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment favoriser la gestion des conflits de façon constructive, dans le sens où chacun trouve une solution pour lui, tout en respectant ce qui se passe pour les autres.
Et donc, pour nous plus grands, c'est l'utilisation de la communication non violente, sans doute certains connaissent, d'autres peut-être moins. Donc, c'est une sorte de technique, de façon de s'exprimer, qui va permettre de le faire différemment. Plutôt que de dire « t'arrêtes de me parler comme ça », voilà, qui est peu, enfin, qui sort hein, forcément, mais en même temps, quand quelqu'un nous parle de façon énervée, on va utiliser la communication non violente. Alors, je vous donne un petit moyen mnémotechnique. OSBD, donc O, l'observation avec les yeux, le sentiment, le besoin et puis la demande. Donc, dans le cas que j'ai cité, c'est observation, je t'entends crier. Sentiment, moi, ça m'agresse, je me sens agressé. J'ai besoin de pouvoir dialoguer sereinement pour pouvoir travailler. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, simplement faire attention à garder un ton respectueux ? Voilà. Déjà, c'est un tout petit peu différent de « t'arrêtes de me parler comme ça ». Le « tu-tu hein, », pour ceux qui connaissent. Donc, déjà, commencez par « je ». À défaut d'en arriver là, commencez par, systématiquement par le « je ». Ça oblige déjà à reformuler différemment. Et puis, utiliser ça. Donc, je vous le remets là. Observation. Bon, sinon, sentiment, besoin et demande. Donc là, observation, c'était je t'entends crier. Sentiment, je me sens agressé. Mon besoin, c'est de pouvoir discuter sereinement et dialoguer sereinement. Donc, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais faire attention au ton que tu utilises avec moi ? Et du coup, tu désamorces le truc.
Je vous invite vraiment sur cet outil-là à vous amuser avec vos familles et vos enfants. Quand on a commencé à le mettre en place, nous, au niveau de notre famille, on se voyait venir à 3 km. Alors, je vois que tes chaussettes traînent dans l'escalier. Alors, ça nous faisait beaucoup rire quand c'était l'autre qui s'y collait, parce que quand même... Mais c'est très long. Au départ, ça vous paraît très long, mais c'est un nouveau langage, donc on doit en passer par là. Et puis après, au bout d'un moment, ça devient automatique. Et même les enfants peuvent le réutiliser entre eux, entre frères et sœurs. Et puis des fois, bon, les ados, c'est un peu plus compliqué, parce que des fois, ils nous voient arriver avec nos gros sabots, et puis ils disent, ouais, c'est bon, je vais ranger ma chaussette.
Et puis, mais fois, bon, des chaussettes, parce que
là, le résultat est là. Et puis des fois, voilà, on est humain, les chaussettes traînent toujours.
Et malgré tout, on donne des clés aussi à nos enfants ou à nos collègues, mais notamment à nos enfants. Enfin, il y a un bouquin de Faber et Maskitch que nous on aime beaucoup, qui s'appelle Écouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent. Et dedans, elle explique que bon, tout ça, pour nous, c'est un peu comme apprendre une deuxième langue. On n'a pas forcément été tellement éduqués comme ça, en tout cas pas nous. Et donc, bah, on le pratique, mais on a un accent, quoi. C'est-à-dire qu'on le fait plus ou moins bien. Des fois, oui, des fois, non. Voilà. Mais en même temps, si nous, on le fait, ça devient plus une langue native pour nos enfants. C'est-à-dire que eux, c'est comme si on apprenait à parler anglais et qu'on commençait à leur parler anglais dès maintenant à la maison. Et du coup, ils apprennent ça. Et c'est des outils pour eux derrière qu'ils peuvent utiliser.
Enfin, amusez-vous, ça vaut le coup.
Mais c'est vrai avec petits et grands, ça. Hein,
Alors, encourager la coopération aussi, c'est aussi prendre part à la vie collective. Donc, en structure, au niveau Montessori, on parle beaucoup de vie pratique. On met toujours en place à la fois des petits plateaux, des petits ateliers qu'ils peuvent faire quand on parle de vie pratique, c'est tout ce que vous pouvez faire dans votre maison, vie quotidienne, nettoyer la table, éplucher une banane, des choses comme ça. Et puis on leur fait prendre part aussi à tout finalement ce qui fait vivre une crèche. Donc de temps en temps, il faut débarrasser les lits parce que faut faire de la place pour le parcours moteur, ou alors il faut aller emmener les draps à la machine à laver, vider le lave-vaisselle, etc. Tout ça participe à la vie du groupe et à l'espèce de sentiment d'appartenance à ce groupe-là, qui est malgré tout très important. Si on n'est pas conscient qu'on fait partie d'un ensemble, après tout, peu importe, moi, si je me comporte comme ci ou comme ça, de toute façon, il n'y a pas d'impact. Si tout ce qu'on fait a un impact sur la vie du groupe, qu'il soit positif ou non, et du coup, de créer un sentiment d'appartenance, on va peut-être réfléchir à deux fois, à ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Est-ce que finalement, ce comportement-là va enquiquiner mon voisin ou pas. Donc c'est vraiment ce sentiment d'appartenance qui favorise derrière la coopération et l'entraide entre enfants.
Chez les plus grands, ce sentiment d'appartenance, un outil qui marche très très bien, c'est la co-construction. C'est le fait de réfléchir ensemble à un sujet. Quand bien même, à la limite, on arriverait au même résultat, ce qui d'ailleurs est rarement le cas parce qu'on a bénéficié de l'intelligence collective, mais quand bien même on arriverait au même résultat, il y a un sentiment d'attachement et d'appartenance qui est beaucoup plus fort. Et c'est extrêmement puissant. Et de la même façon, prendre des temps en équipe, en agilité, on prend des temps, la rétrospective, mais aussi des temps fun, etc. Ce besoin, ce temps collectif ensemble sont très importants. Une petite fable, la fable de Charles Péguy, peut-être certains la connaissent. Pour illustrer ça, c'est Charles Péguy qui se promène au moment de la construction de la cathédrale de Chartres. Et puis il arrive sur un chemin sur lequel il y a le chantier, quoi. Et puis il tombe sur un premier qui tape sur des cailloux pour casser les cailloux. Et qui fait une tête, mais pas possible. Et donc, il le salue, il dit bonjour, qu'est-ce que vous faites? Et le gars lui dit, je casse des cailloux, c'est la misère, mais bon, il faut bien manger. Ok, bonne journée. Continue, et puis un peu plus loin, il tombe sur un autre monsieur qui casse des cailloux aussi, qui tape sur ses cailloux, mais ma foi, qui a l'air d'aller pas trop mal, voire bien. Et puis, donc, de la même façon, il le salue, puis il lui dit, tiens, qu'est-ce que vous faites? Et le gars lui dit, je casse des cailloux. Mais bon, c'est en plein air, et puis ça permet de nourrir ma famille, mes enfants, ma femme, etc. Donc, ma foi, il doit y avoir pire, c'est pas si mal. OK. Et puis, il continue, et il tombe sur une troisième personne qui la tape sur les cailloux avec une énergie, la banane, qui a l'air extraordinaire. Et donc, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et le gars lui dit, moi, je construis une cathédrale. Voilà. Et donc, ils sont juste en train de faire la même chose, mais le sentiment d'appartenance n'a juste rien à voir. Voilà. Voilà, donc c'était les trois piliers. Donc si on se résume avant de débriefer ensemble, les fondations, on l'a vu, c'est la sécurité affective. Donc il faut déjà tout faire pour tous les âges, petits, moyens, grands, etc. Il faut absolument le faire un maximum pour sécuriser ça. On vous a donné quelques pistes, et même avec ces quelques pistes, c'est pas facile, mais c'est vraiment le point. Et une fois qu'il y a ça, où on peut utiliser quelques autres, le premier qu'on vous a expliqué, qu'on vous a présenté, c'est favoriser la confiance en soi, donc essayer de trouver des pistes pour faire en sorte que l'individu développe sa confiance en soi, qui va l'aider après à se développer. Son autonomie, ne pas rendre dépendant. Encourager la coopération. Donc ça, on a vu que c'était vraiment une source de développement important. Et puis le dernier, qui est travailler l'exemplarité. On n'en a pas parlé, mais c'est extrêmement important. En fait, on fonctionne tous, petits et grands, par mimétisme. Et donc, ce que vous demandez, il faut réussir le plus possible à être cohérent avec ça dans notre comportement. Que ce soit les parents avec nos enfants, on le vit tous les jours tous, je pense, mais aussi au travail, un manager ou autre, demander aux personnes de faire quelque chose alors que nous, on ne se l'applique pas, malheureusement, ça a un effet très, très réduit.
Je vais vous juste, ça me fait penser à un petit exemple sur le mimétisme chez les tout-petits. encore plus que chez les adultes, c'est vraiment le visuel qui prime. Vous avez beau dire tous les discours que vous voulez, lui, il regarde ce que vous faites. On fait très attention, quand on fait des présentations de plateau, à faire des gestes lents. Alors, c'est pareil, c'est pas simple, mais en tout cas, voilà. Une des premières présentations que j'ai faites, j'ai pas fait gaffe, j'avais mon petit doigt en l'air. J'ai coupé une banane, le petit doigt en l'air. C'est très chic, hein, mais du coup, voilà, je peux vous assurer que l'éducatrice qui me suivait à ce moment-là m'a fait remarquer que les trois enfants qui ont fait après le coupé de la banane, eh ben, ils avaient tous le petit doigt en l'air. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut proposer et être cohérent dans ce qu'on fait. Alors après, il n'y a pas de drame, hein, à couper la banane, le petit doigt en l'air. Mais en tout cas, voilà, faut être cohérent avec ce qu'on propose. Et puis vous avez beau dire, en fait, c'est vraiment faire ce que je dis, pas ce que je fais. C'est cet esprit-là derrière. Et l'exemplarité, elle n'est pas toujours évidente, mais en tout cas, il faut y tendre pour qu'on puisse faire passer les messages qu'on veut.
Et en vous faisant la synthèse, je me rends compte qu'il y a un slide qui est passé trop vite, enfin, je pense en cliquant. C'était développer l'autonomie, on va prendre 2-3 ouais, minutes quand même pour le... Bon, il me semblait qu'il en manquait un, pour vous le présenter en 3-4 minutes.
Alors, donc, je vais vous faire une synthèse rapide. Donc, chez les plus petits, on va laisser le temps à l'enfant. On va prendre le temps, quel que soit le temps dont il a besoin. Je pense à l'habillage, par exemple. On a des fois l'impression de perdre son temps, de lui laisser le temps de faire les choses. Mais au final, si un enfant essaye, il va peut-être s'habiller finalement 2 ans plus vite que celui à qui on aura toujours mis le manteau, mis la fermeture, etc. Je continue pour faire rapide. Attends, parce que le...
Tu veux répondre direct ? Un exemple là-dessus, c'est un manager qui me racontait, il a décidé de faire des réunions d'équipe, des rétrospectives d'équipe tous les mois. Voilà. Et donc, il faisait habituellement les réunions classiques. Et puis là, il s'est dit, allez, une fois par mois, on fait une rétro d'équipe, pour ceux qui connaissent, un peu plus interactif et différent. Et il y a donc globalement, les personnes ont été plutôt partantes, mais il y a une personne qui n'avait pas du tout envie, qui disait non, moi, j'ai pas envie de ça, ça ne me parle pas, voilà, très réfractaire. Et le manager lui a demandé, je lui ai dit, écoute, c'est un temps d'équipe, je te demande juste de venir. Voilà. Après, tu participes ou pas, mais c'est un temps d'équipe, donc je te demande simplement d'être présent. La personne, elle est venue pendant 6 mois, donc pendant 6 rétrospectives, elle est venue, elle n'a rien dit. Et au bout de 6 mois, elle a basculé. Et c'est devenu une des personnes les plus engagées dans l'équipe. Parce que pour cette personne-là, elle avait un rythme, une vitesse d'adoption, ou en tout cas, ça lui parlait moins. Et donc, clairement, ça questionne quel temps on laisse, notamment en entreprise et autres, hein, quel temps on laisse aux personnes et comment, dans quelle mesure on respecte ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour y aller.
Donc, on intervient aussi uniquement sur demande de l'enfant. On essaye, en tant qu'adulte, d'avoir une posture non interventionniste. On se rend compte qu'en tant qu'adulte, on intervient finalement beaucoup plus tôt, alors que l'enfant, il n'en a pas spécialement besoin. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas forcément évident en tant qu'adulte, parce que vous voyez le temps qui passe, vous, et puis quand même, ce serait quand même sympa qu'il fasse quelque chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit exemple, il n'y a pas longtemps, une petite fille qui voulait accrocher son manteau au porte-manteau, alors elle n'était pas très grande, du coup, elle galérait à faire son truc. J'aurais pas, je pense, été dans cette dynamique-là, ça fait longtemps que j'aurais pris le manteau et puis j'aurais accroché le manteau. J'ai laissé faire jusqu'à la limite de la frustration où là, elle commençait à me regarder en disant bah, « tu viens m'aider ». Et puis voilà, le fait d'être à côté d'elle, finalement, bah, elle a fait le dernier petit effort de levage de talons là, et le manteau a été accroché. Satisfaction complète de cet enfant-là. C'est vraiment... on n'a pas besoin d'intervenir plus vite que la musique. Voilà, l'enfant, souvent, il ne nous demande pas. J'ai un autre petit exemple aussi, je fais rapide. je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film « Le maître est l'enfant ». Je vous invite à le voir, c'est dans une classe Montessori où on voit un petit garçon qui essaye désespérément de couper une pomme. Et ça nous, enfin, franchement, dans le film, ça dure super longtemps ce truc-là. On est dans notre fauteuil de cinéma, on n'a qu'une envie, c'est d'aller couper la pomme pour lui, parce que franchement, il n'y arrive pas. Et voilà, c'est vraiment ce truc-là. Et alors que l'enfant, lui, il n'est pas du tout en demande de votre aide, ça ne le gêne pas d'y passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à couper cette fameuse pomme.
Quand on fait ça, on entame finalement son autonomie. Et pareil, hein, pour nous grands, on a confié quelque chose à quelqu'un qui dit ouais, ça fait 2 fois que je relance cette personne-là et elle ne me répond pas. Donc, facilement, on peut dire ok, bah, bouge pas, je l'appelle. Non, il n'a rien demandé. Il vient dire que. Voilà, donc c'est plutôt comment je vais l'aider. Ok, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que, différemment, peut-être, pour que la personne réponde ou quoi. Mais voilà, on peut avoir tendance à ça, sauf qu'à partir du moment où on a introduit ça, on coupe l'autonomie, enfin on dégrade l'autonomie parce que le coup d'après, quand elle a un problème, elle va revenir voir et donc il y a une forme de dépendance qui s'installe. Alors que ce qu'on veut pour qu'elle grandisse, c'est qu'elle commence à réfléchir à, ok, la personne ne me répond pas, Ben, il faut peut-être le questionner. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? Voilà, j'ai failli dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne répond pas d'après toi ? Et qu'est-ce que tu pourrais faire différemment pour que cette personne réponde ? Est-ce que tu pourrais trouver l'information ailleurs ? Voilà. Et à partir du moment où on l'a aidé à ça, le coup d'après, il ne va pas avoir besoin de venir.
L'autonomie, nous, on le met aussi vraiment en place par rapport à ce qu'on peut proposer à l'enfant dans l'environnement. Pour faire simple, tout est à hauteur d'enfant, enfin, en tout cas, tout ce que l'enfant a le droit d'avoir accès est à sa hauteur et c'est classé du plus simple au plus complexe. L'enfant le sait à force de répétition de notre part, hein, évidemment, c'est pas comme ça que ça s'acquiert. Mais en tout cas, voilà, ça permet que quand il arrive le matin dans l'environnement, quelle que soit la professionnelle qui est là et qui pour s'occuper de lui, bah voilà, lui, il sait que tel plateau va être là et puis que s'il a réussi celui-là, bah, potentiellement, il peut passer à celui d'après parce qu'il y a une difficulté supplémentaire auquel il peut avoir accès, etc. etc. C'est vraiment proposer un environnement le plus adapté possible. Voilà, pour ça, on utilise beaucoup l'observation, mais en tout cas, c'est vraiment l'environnement accessible à l'enfant.
En agilité, vous entendrez beaucoup parler de partage et de transparence. Partage d'informations, transparence. De la même façon, si on confie une tâche à un collègue et qu'en fait, quand il a besoin d'informations, il est obligé de passer par vous pour avoir cette information-là, parce que vous détenez une partie des informations et vous en contrôlez, entre guillemets, l'accès, c'est-à-dire que vous êtes mis un peu en coupure ou... Il n'y a pas une vraie autonomie de données. Donc, si vous lui confiez cette tâche-là, il faut aussi essayer de réfléchir à, OK, s'il a besoin d'informations, il vient me voir pour avoir une information. Plutôt que de lui donner l'information, je vais essayer de le connecter. Et parfois, ça peut gratter. Ça peut être de dire, bah, du coup, tu vas aller à ma place dans cette réunion-là ou à tel endroit parce que désormais, c'est toi qui es le... Donc, c'est comment je deviens le plus transparent, le plus partageant, ouvert sur l'information pour faire en sorte que tu n'aies plus besoin de moi pour avoir cette information. Voilà, donc Maria Montessori disait aide-moi à faire seul.
Ah oui. Et, voilà.
Donc, petit jeu de débrief. Je vais remettre le pilier. Voilà. Ce qu'on vous propose maintenant pour terminer cette séance, c'est de prendre alors d'abord une minute pour écrire. Vous avez dû avoir deux post-it. Il y en a un qui est pour la porte. Pas un problème. Et le deuxième, c'est maintenant qu'on va l'utiliser. Parmi tout ce qu'on a dit, vous allez écrire une idée concrète, hein, quelque chose de concrète avec lequel vous avez envie de repartir. C'est votre cadeau de... De départ. Donc, une idée concrète avec laquelle vous repartez, que vous avez envie un peu de changer, où vous dites, tiens, ça, ouais, pour moi, ça a de la valeur, ça me parle et j'ai envie d'essayer ou de changer ça. Donc, pour l'instant, vous l'écrivez sur un post-it. On va se donner une minute. Chacun écrit sur un post-it. Vous avez pas de... Ouais, s'il y en a qui n'ont pas de post-it, vous dites... Qui n'a pas de post-it ? Là ? Donc, l'idée avec laquelle vous repartez, celle dont vous allez éventuellement parler en sortant ou ce soir en rentrant, ou celle qui vous semble, qui vous a le plus interpellé aujourd'hui. Regarde à peu près.
C'est beau dire tous les discours que vous voulez, lui, il regarde ce que vous faites. On fait très attention quand on fait des présentations de plateau à faire des gestes lents. Alors c'est pareil, c'est pas simple, mais en tout cas, voilà, une des premières présentations que j'ai faites, j'ai pas fait gaffe, j'avais mon petit doigt en l'air. J'ai coupé une banane, le petit doigt en l'air. C'est très chic, hein, mais du coup, voilà, je peux vous assurer que jusqu'à ce qu'on dise ça me suivait à ce moment-là, m'a fait... Remarquez que...
Voilà, très bien. Faites circuler. Ok. C'est bon ? Alors... Votre attention, s'il vous plaît.
Alors, stop.
C'était un tour de chauffe, stop. C'est maintenant que ça va être vraiment le bazar, et c'est bien, ça fait du bien aussi. Voilà la façon dont ça va se passer.
Oui.
Voilà la façon dont ça va se passer. Vous attendez que j'ai fini pour démarrer, parce qu'après, vous allez discuter avec votre un voisin, un premier voisin. Vous avez deux idées. Vous discutez des deux, et c'est comme si vous deviez voter sur Google ou autre. Vous avez le droit à 7 étoiles, on va dire. Comment vous les répartissez entre les deux ? Est-ce que vous mettez 7-0 entre les deux idées, finalement, celle qui a le plus valeur ? Est-ce que vous mettez plutôt 7-0, 4-3, 5-2, etc. OK ? Vous mettez des points. Donc, si vous mettez 5-2, vous mettez 2 points sur le post-it sur lequel, sur l'idée qui vous semble avoir le plus de valeur et 2 points sur l'autre. OK ? Donc, on fait ça une première fois. Vous avez une minute pour discuter. Une minute pour discuter avec votre voisin entre les deux idées que vous avez dans les mains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Entre les deux, là, comment vous répartissez ? Vous avez 7. Alors, vous votez, vous avez fini ce vote, ce tour de vote, c'est bon ? Donc maintenant, on va refaire la même chose, mais avec une autre personne. Donc vous allez changer l'idée avec laquelle vous comparez, ok ? Vous trouvez un autre voisin, et vous discutez de la même façon, vous allouez 7 points entre les deux. Donc au lieu d'être discuté avec à côté, vous discutez en face.
Est-ce que vous voulez un post-it pour mettre votre idée de départ qui est partie, éventuellement ?
Les post-it au fond qui commencent là.
Ah oui, du bon côté.
Il semblait bien qu'on avait zappé un slide.
Mais oui, moi aussi. C'est bizarre quand même, ça a dû appuyer de faire le truc.
Ok. 10 secondes pour finir les votes. C'est bon ? Et on fait... C'est bon ? On fait une dernière itération. Donc, troisième fois, vous trouvez une troisième personne, vous rediscutez, vous allouez les votes et après, on fait le dépouillement. Vous allez voir, rapide. Rediscutez.
C'est frustrant. C'est ça. J'ai trop chaud. Hey Mathias, tu veux pas ventiler là ?
Ok. 15 secondes pour finir le dernier vote. C'est bon ? Alors, clôture. Y a-t-il un ou des post-it avec plus de 15 votes ? 15 points dessus.
15 étoiles.
15 étoiles. Non ? Oui ? Plus de 15. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus ?
Mettre en application l'observation, le...
OSBD.
OSBD, d'accord. Mettre en application OSBD. Ok, donc c'est notre grand, la grande idée qui ressort du groupe. Merci. Et y a-t-il des post-it avec plus de 12 points ? C'était à 15 ? Oui.
Deux votes sur sécurité affective.
Deux fois 7, c'est ça ? 14. Donc sécurité affective ici. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres à plus de 12 ?
14 aussi, c'est favoriser la confiance en soi.
Si. Qui d'autre dans les 14 ? Ah, OSBD, ok.
Conditions saines et sereines pour les collaborateurs.
Conditions saines et sereines pour les collaborateurs. OSBD qui revient. Ok. Ah, pardon, et là.
Sécurité psychologique.
Sécurité psychologique. Merci à tout le monde. C'est la clôture. Ça vous permet à la fois d'avoir échangé, vu d'autres idées, ce qui ressortait et ce que le groupe ressort. Merci à tous. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
De cet printemps agile.
Première. Unique.